et Info Club Sandwich. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 juin 2026 et vous écoutez l'Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative préférée. Disponible sur le 87.7 FM, en DAB+, et en écoute sur radiocampusamiens.fr. Côté musique, aujourd'hui, nous écouterons No Care de Dover, ainsi que Nos Limites de KLN et Tiakola. Pour l'interview du jour, on écoute le reportage d'Adam, qui est allé à la rencontre d'un organiste. Et dans une deuxième partie, nous passerons à l'émission On écoute de chronique... Dans une deuxième partie, excusez-moi, de l'émission, on écoute la chronique de Sada sur les vinyles. Enfin, nous retrouverons Colline pour votre chronique quotidienne préférée consacrée à la 30e édition des rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens qui se tiennent à la Halle Freycinet du 6 au 21 juin. Mais tout de suite, place au reportage d'Adam.
C'est Adam de Radio Campus Amiens et je me trouve dans un endroit assez resserré mais d'un des plus grands instruments du monde et très impressionnant et je suis en compagnie de son organiste titulaire Geoffrey Chénier. Comment allez-vous?
Très bien, merci.
Du coup, pour la première question, ce serait de vous présenter en quelques mots avant qu'on rentre dans les détails de votre métier et aussi de votre rapport justement à cet instrument. Moi, je suis toujours étonné quand je rentre dans une cathédrale de sa taille gigantesque.
Les cathédrales, les églises sont très très souvent des lieux assez impressionnants par leur dimension. Et l'orgue, c'est certainement l'instrument idéal pour remplir de musique ces grands édifices. Évidemment, la cathédrale d'Amiens, soyons chauvins, c'est la plus belle, c'est aussi la plus grande, à peu de choses près. Et donc, cette cathédrale est dotée d'un grand orgue depuis le milieu du XVe siècle. Ce qui donne à cet instrument que nous connaissons aujourd'hui, évidemment, qui a été remanié à de nombreuses reprises, une longue histoire, des perfectionnements successifs au fil des siècles et qui en donne aujourd'hui une machine absolument incroyable. Vous le voyez devant vous, trois claviers pour les mains, un clavier pour les pieds qu'on appelle un pédalier et tout autour 70 registres, 70 boutons si vous préférez. Chaque bouton correspond à une sonorité qui fonctionne sur l'un des claviers. Un peu comme si vous sélectionnez un musicien dans l'orchestre. Donc ici, vous avez quasiment un orchestre de 70 musiciens. Ce n'est pas rien.
C'est assez impressionnant. Mais du coup, qu'est-ce qu'un organiste pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ce...
L'organiste, étymologiquement, c'est celui qui joue de l'orgue. Voilà. Et être organiste dans un lieu comme celui-ci, évidemment, c'est un honneur, c'est aussi une charge, c'est en quelque sorte un travail, c'est un service aussi, parce que nous sommes là, certes, pour faire de la musique, mais au service de quelque chose qui se passe dans la cathédrale.
Concrètement, qu'est-ce que joue un organiste, s'il est au service de l'église? On a le micro, ce sera plus...
Alors, la mission de l'organiste pour le culte, c'est prioritairement d'accompagner les chants, les cantiques qui sont chantés pendant les offices, mais aussi de jouer à certains moments clés de la musique appropriée pour justement, illustrer cet office. On joue, on improvise aussi, en tout cas, on s'adapte pour que la liturgie, c'est comme ça qu'on appelle l'ensemble des choses qui se passent dans un office, pour que la liturgie soit bien huilée en quelque sorte. On met de l'huile partout quelque part. C'est-à-dire que la musique que nous produisons, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit improvisée, est là justement pour unifier un peu la liturgie et aider la prière des fidèles tout simplement. Dans un autre mode, l'organiste responsable d'un instrument est aussi responsable de sa vie en dehors du culte. Et à ce moment-là, ici, nous organisons également des concerts pour faire entendre ce magnifique instrument.
Justement, parce que moi, avant ça, moi, je connaissais un peu l'instrument, mais je me suis renseigné évidemment pour savoir aussi ce que c'était et moi, ce qu'impliquait un organiste. Et j'avais vu qu'on avait différents types, on les nommait différemment. Quelles sont les différences et justement, parce que par exemple, moi, je suis plus cinéma pour le coup, et en fait, moi, je peux entendre de l'orgue, par exemple, dans des bandes originales de films, par exemple. Mais là, c'est un peu différent, mais bien sûr. Mais
alors, l'orgue, c'est un instrument qui a une très longue histoire et qui a aussi de multiples usages, et pas simplement que dans les notes cultes. Il est vrai que l'orgue de concert est né au XVIIIe siècle, mais le cinéma est effectivement un domaine dans lequel l'orgue a été adopté très très tôt, puisque vous le savez, je suppose, que le cinéma est né muet et que très très tôt il a fallu trouver un moyen de sonoriser les films muets, parce qu'il fallait couvrir les bruits des spectateurs qui à l'époque ne se gênaient pas pour commenter tout ce qu'ils voyaient, et puis aussi pour animer l'action, parce qu'après tout le cinéma c'est le reflet de la vie quelque part, et sans le son il manquait quelque chose. Et il est vrai que l'on a adopté assez vite au cinéma l'orgue, parce que par la diversité de ses sonorités, l'orgue permettait à des organistes en fait d'illustrer en improvisant les projections de films, et ce dans les années 10-20. Évidemment, dès que le cinéma muet est apparu vers 1927, le rôle des organistes a beaucoup changé au cinéma en particulier, puisque après on a eu le cinéma sonore et donc il n'y avait plus vraiment besoin des organistes. Mais il y a eu quand même, c'est vrai, pour le cinéma, beaucoup l'usage de l'orgue dans les salles. Alors j'allais dire pas toutes les salles, hein. C'était dans les salles de très grandes villes qu'on avait parfois des orgues de cinéma, comme par exemple à Paris au Gaumont Palace par exemple. Bien. Néanmoins, cette tradition de l'orgue dans des lieux comme le cinéma était peut-être plus suivie à l'étranger, dans les pays anglo-saxons, qu'en France. D'ailleurs, ça a poursuivi, puisque quand vous allez aujourd'hui aux États-Unis, vous trouvez des orgues parfois dans des stades pour le hockey sur glace, par exemple, ou dans des jardins publics, ou dans des lieux tout à fait insolites. Et bon, évidemment, dans le monde entier, on trouve des orgues aussi maintenant dans les salles de concert, ce qui effectivement permet un usage avec orchestre et de jouer tout un tas d'autres musiques que celles que l'on joue dans un lieu de culte.
Qu'est-ce qu'un organiste joue justement quand il y a dans un lieu de culte comme celui-ci, la cathédrale d'Amiens, et quel est son répertoire du coup, et comment est-ce qu'il s'accommode avec la messe ou autre cérémonie?
Alors je pense que tout organiste digne de ce nom puise beaucoup dans la musique de Jean-Sébastien Bach par exemple, un musicien de l'époque baroque qui a énormément composé pour l'orgue. Et comme il était génial, évidemment, il nous a produit tout à fait des chefs-d'œuvre qui, lui-même, à son époque, Jean-Sébastien Bach, écrivait pour le culte. Donc, du coup, sa musique reste d'actualité et on arrive très très bien à jouer des œuvres de Jean-Sébastien Bach qui sont en rapport avec le culte, même si, effectivement, Bach n'a pas forcément écrit pour le culte catholique, mais pour le culte protestant. Mais ça, c'est pas bien grave. Nous, on s'en accommode et voilà, on choisit nos pièces, par exemple, pour illustrer tel verset qui a été, par exemple, proclamé dans tel évangile, etc. On sent l'atmosphère d'un office. On peut s'inspirer des lectures qui y sont dites. Il y a quand même trois lectures plus le psaume tous les dimanches, non ? Et même tous les... Bon. Donc, du coup, on adapte notre répertoire et on puise dans plein de choses. La musique pour orgue, en fait, elle est elle aussi très vaste, parce que les premières traces de musique pour orgue qu'on a, elles datent d'environ le XIIIe siècle. Hein. Et aujourd'hui, on continue à composer pour l'orgue. Donc, nous avons l'embarras du choix.
Première question, hop. Depuis, du coup, combien de temps vous êtes, du coup, le titulaire, du coup, de l'orgue d'Amiens ?
Alors, je suis titulaire de cet instrument depuis septembre 2016. Je le connaissais déjà bien avant, puisque j'avais eu l'occasion d'y remplacer mon prédécesseur et professeur, d'ailleurs, M. Loisement, qui était l'organiste précédent. Il m'arrive d'aller jouer aussi dans ma ville d'origine, Saint-Valery-sur-Somme en l'occurrence, dont l'église comporte un instrument tout à fait intéressant. Et par le jeu des concerts que l'on m'invite parfois à faire, je me déplace pour jouer des concerts ou même parfois des offices d'ailleurs, dans d'autres églises, d'autres cathédrales, ça m'arrive. Voilà.
Du coup, en fait, pour nos auditeurs, est-ce que vous pourriez justement un peu décrire du coup ce qu'on a sous nos yeux à peu près, et du coup, parce qu'on le voit quand on entre dans la cathédrale, mais il y a d'autres secrets du coup.
Alors, j'ai devant moi, nous avons devant nous trois claviers. Alors, vous me direz pourquoi trois claviers, nous n'avons que deux mains. C'est une excellente question. En fait, nous multiplions les claviers pour avoir à disposition de nos doigts des sonorités différentes. Par exemple, le premier clavier qui commande les tuyaux qui sont actuellement dans mon dos, et que quand on regarde l'orgue depuis la cathédrale, en fait c'est le groupe de tuyaux qui se trouve accroché à la rambarde. Eh bien, je peux par exemple choisir d'avoir une sonorité qui soit par exemple très forte. Alors je tire un registre qui s'appelle la trompette. Et vous allez entendre quelque chose qui ressemble à la trompette. Hein. Mais sur le deuxième clavier, qui lui commande des tuyaux qui sont au-dessus de ma tête, premier étage, je vais choisir plutôt une sonorité beaucoup plus douce qui s'appelle bourdon. La voici. Et alors, ce qui est très pratique, c'est que justement, je peux jouer avec la main gauche au deuxième clavier, sur le bourdon, et avec la main droite, sur le premier clavier, avec la trompette. Et ainsi de suite. Cet instrument comporte trois claviers, ce qui donc multiplie les possibilités d'association de sons ou d'opposition de sons. Donc avec nos 70 instruments répartis de chaque côté, c'est à nous de faire en quelque sorte notre cuisine. On se trouve un peu comme dans la cuisine à la maison, où il y a des ingrédients plein les placards.
En et plus, on se dit, il y a leur nom en plus, voilà. Ce qui renforce ce côté cuisine.
Voilà, chaque registre a un nom particulier avec un numéro qui lui est attribué, afin qu'on puisse quand même s'y retrouver. Nous sommes en charge donc de faire cette cuisine, c'est-à-dire de sélectionner les sonorités que nous souhaitons entendre ou que nous souhaitons associer également. Parce que c'est comme dans la cuisine. On ne peut pas mélanger tous les ingrédients sous prétexte qu'ils sont bons. Ils ne vont pas tous les uns avec les autres. Donc, nous devons faire notre sélection. C'est ce qui s'appelle faire la registration. C'est aussi un gros travail pour l'organiste, surtout que plus l'instrument est grand, plus les registrations possibles sont nombreuses. Donc, il nous faut choisir. Et ça prend du temps.
Voilà. Par exemple, quel instrument va avec justement quel instrument, par exemple ? Justement, quand vous avez joué la première étage de piano et la deuxième, par exemple.
Ce serait compliqué à vous résumer tout cela. Ce serait beaucoup, très très compliqué. Mais voilà, l'orgue, c'est le principe de l'orgue. Vous avez tout un tas d'ingrédients, vous les opposez ou vous les mélangez. Et il se trouve que dans l'orgue de cette époque, l'orgue de la cathédrale, en fait, a une physionomie qui est celle du 19e et du 20e siècle pour sa partie musicale, pas pour sa partie visible, mais pour sa partie musicale. Et ces instruments sont faits pour que se mélangent beaucoup de choses entre elles. Alors, je peux peut-être, rien qu'en tenant une touche, ou c'est vous qui allez le faire d'ailleurs, vous allez tenir cette touche-là, et moi, je vais varier les différents sons qu'on va faire sortir par cette touche. Attention, ça va décoiffer. Au fur et à mesure que j'ai passé les combinaisons avec ces boutons, les registres se sont mis en action tout autour de nous. C'est-à-dire que là, il y a quasiment au moins les deux tiers des registres qui sont sortis. Plus vous additionnez, plus vous avez de masse sonore et plus vous avez un son puissant et riche. Et inversement. Voilà. Donc voilà. Et pour détailler également. Parce que souvent, la question qu'on pose, c'est « Monsieur, dans votre orgue, il y a combien de tuyaux ?» Alors souvent, les gens comptent les tuyaux qui sont sur la façade. Il y en a peut-être une cinquantaine, et encore même pas. Sauf qu'il faut imaginer que pour un instrument de l'orgue, par exemple, j'en prends un qui s'appelle montre, qui fonctionne au premier clavier, Il y a un tuyau pour cette note, 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 un tuyau pour cette note. Et ce, jusqu'en haut du clavier. Le clavier fait 56 touches. Donc vous avez déjà pour cet instrument 56 tuyaux différents. Donc vous imaginez ici, il y a 70 instruments. Vous multipliez par 56, ça vous donne déjà le nombre minimal de tuyaux. En fait, dans cet orgue, il y a plus de 4500 tuyaux. C'est colossal. Les plus grands mesurent près de 6 mètres de haut. Je pourrais presque rentrer dedans. Les plus petits, quelques millimètres pour la partie qui joue. Alors peut-être on peut, je ne sais pas si ça passera au micro, mais on va essayer de faire entendre le son le plus grave de l'orgue et le son le plus aigu.
Ça va peut-être saturer, mais...
Ce ne sera pas forcément très fort.
Oui.
Le son le plus grave, le voici. Alors on verra si ça passe ou pas à l'enregistrement. C'est
bon,
plus une vibration sonore extrêmement grave. On approche tout doucement de ce que l'oreille humaine n'arrive plus à entendre. Et le son le plus aigu, eh bien ça va être ici. Bougez pas. Hop, voilà. Le son le plus aigu, ça va être celui-ci.
Ah oui.
Ouais. Et ça c'est pareil, on verra si le microphone l'a entendu.
Ça va, il l'a plutôt bien entendu.
Donc nous avons un spectre sonore extrêmement large. Et c'est aussi ça qui nous permet de remplir l'église. C'est d'avoir une sonorité dont on enrichit le son de base pour que le son puisse partir beaucoup plus loin que si on avait des sons tout simples.
Du coup, à l'occasion de la fête de la musique, vous faites ce qu'on appelle une audition du coup d'orgue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, puisque ce reportage est à l'occasion de la fête de la musique?
Bien, par définition, la fête de la musique, hein, comme elle a été initiée dans les années 80, si je ne m'abuse, c'est le fait de pouvoir entendre de la musique partout, tout type de musique et dans plein de cadres différents. Alors évidemment, comme l'orgue de la cathédrale d'Amiens a été restauré et inauguré l'année dernière, eh bien, ce sera sa première fête de la musique, sa première participation à la fête de la musique. Alors, modestement, nous organisons cette audition, c'est-à-dire qu'on va pouvoir entendre l'orgue de la cathédrale le dimanche 21 juin de 15h30 à 16h30, dans un programme que je vais jouer, où on va entendre un certain nombre d'œuvres pour orgue. Certaines sont parfois très connues d'ailleurs, je vous en jouerai le début d'une tout à l'heure et vous me direz « Ah ben oui, je connais !» Bon, et vous l'aurez entendu au cinéma aussi, donc vous me direz dans quel film vous l'aurez entendu, d'accord?
Oui.
Bien. Et voilà, parce que l'orgue, c'est un instrument de musique. Dans le culte ou en dehors du culte, c'est un instrument de musique. Donc il a l'occasion de se faire entendre. Et la fête de la musique, c'était l'occasion de pouvoir le faire partager au plus grand nombre. Et c'est évidemment totalement gratuit. Et c'est avec un accès entièrement libre, c'est la fête de la musique.
Du coup, on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot, peut-être, histoire de...
La musique, ça se partage. Vous avez parlé de mon rôle d'organiste liturgique, mais mon rôle d'organiste ne consiste pas qu'à jouer dans la liturgie, mais il consiste aussi à faire entendre cet orgue. Alors, il va y avoir le 21 juin, c'est vrai. On a aussi un très beau concert avec orchestre qui aura lieu le 25 juin. Avec l'Orchestre National de Lille, grosse formation symphonique, l'Orchestre de Picardie, notre orchestre qui est basé sur Amiens, et puis l'un des organistes de Notre-Dame de Paris, Thierry Esquèche, qui vient jouer dans ce concert. Ça, c'est un superbe moment qui va avoir lieu donc jeudi 25. C'est un concert qui, lui, est à entrée payante, avec réservation sur le site de l'Orchestre National de Lille. Mais ça va être tout à fait exceptionnel. Bon. Plus tard, au mois de juillet, on va avoir un concert à deux organistes, quatre mains et quatre pieds sur ses claviers.
Ça va être impressionnant.
Voilà. Alors, c'est surtout impressionnant parce que les claviers de l'orgue sont plus courts que les claviers d'un piano. Un piano a généralement des 88 touches sur le clavier. Les claviers de l'orgue n'en font que 56. Alors évidemment, quand vous devez jouer à deux, on joue en mode serré. Bon, et il se trouve que les artistes qui viennent nous faire ce concert le 12 juillet à 15h30, ça sera un concert qui est à entrée libre, ce sont Éric Lebrun et son épouse Marie-Ange Laurent. Donc comme ils sont mariés et femmes, d'être un peu trop à l'étroit autour du clavier, ça posera pas de problème. Voilà. Et puis voilà, on va continuer à vous proposer comme ça des moments musicaux à la cathédrale d'Amiens, parce que cet orgue est propriété de l'État, il faut le savoir, comme la cathédrale. Il a été restauré après 5 années de travaux, ça a coûté assez cher à l'État, c'est normal. Ce sont des travaux très importants.
Pour cause d'inondation, je crois, si je ne me trompe pas.
Non, pas vraiment. Non. L'orgue était, en fait, n'avait pas subi de gros travaux depuis 1965. Donc il en avait un grand besoin. Et donc cet instrument, eh bien, il faut maintenant qu'il est en état de jouer. Avec beaucoup de facilité d'ailleurs, puisqu'il a été un petit peu modernisé aussi de ce point de vue-là, eh bien, on va le faire vivre. Mmh. Parce que ce n'est pas un objet de musée qu'on met dans une vitrine, c'est quelque chose de vivant.
Bah, je vois ça, parce que il peut produire une quantité de son et de musicalité qui est vraiment incroyable. Très impressionnante.
Incroyable. Donc, venez le découvrir, vous êtes les bienvenus dans les différents modes dans lesquels on va vous le présenter. Des organistes, avec orchestre, voilà. Soyez les bienvenus.
Geoffrey Chenier, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Because I only know how to flail. I always hit like I'm drowning. Dead arms around him, I'd rather stand still. Hold tightly to the walls. No care, no care, no. No care, no care, no. I don't care, don't care anymore. I don't care, don't care. Love you in panic because I prefer to sit on fences. Spit kissing on my sick bed. I'm not searching for replacements, but we are like broken instruments, twisted up and wheezing out the wrong notes. Sleepless folks watching life go through their early morning windows. I don't care, I don't care anymore. I don't care, I don't care. Oh, I'm too drunk to fight. Hurling kisses at your surface because I'm alright. Because it hurts that I'm in love again. And you have kissed my neck, so your arguments are insane. Fighting over the way something was said while I'm still here like a cheap threat. No care, no care, no. No care, no care. Memory like my spine is a reminder of her. And you said that you felt sick. I was so heavy hearted, lying silent with you afterwards. How I wanted you to promise we would only make. How I wanted you to promise we would only make. How I wanted you to promise we would only make. Love, but my mouth felt like I was choking broken glass, so I just left it off. See, my mouth felt like it could talk the end of us, so I just slept it off, slept it off. No care, no care, no way. No care, no care. I don't care, don't care anymore. I don't care, don't care. Oh, I'm too drunk to fight. I only wanted you to promise me we'd only ever make love. But my mouth felt like I was choking broken glass, so I just left it off. Wanted you to promise we would only ever make. Wanted you to promise me we'd only ever make a love.
C'était No Care de Dover, toujours sur le 87.7 FM. Maintenant, on écoute Sada pour sa chronique sur les vinyles.
Aujourd'hui, je vais vous parler du retour du vinyle. Alors que la musique est aujourd'hui accessible en quelques clics grâce aux plateformes de streaming, un support que l'on croyait dépassé connaît un retour inattendu, le disque vinyle. De plus en plus de jeunes s'intéressent à ces grands disques noirs qui ont marqué plusieurs générations. Pourtant, le vinyle est moins pratique qu'un smartphone, il prend de la place, coûte souvent plus cher et demande un lecteur spécifique. Malgré cela, ses ventes continuent d'augmenter. Ce succès s'explique en partie par l'expérience qu'il offre. Écouter un vinyle, c'est prendre le temps de choisir un album, de le poser sur la platine et de profiter de la musique sans interruption. Pour beaucoup, cela permet de retrouver un rapport plus authentique avec les artistes et leurs œuvres. Le vinyle séduit également les collectionneurs. Les pochettes grand format, les éditions limitées et l'objet lui-même ont une valeur que les fichiers numériques ne peuvent pas remplacer. Même si le streaming reste largement dominant, le retour du vinyle montre qu'à l'ère du tout numérique, certaines personnes ressentent encore le besoin de posséder un objet concret et de vivre la musique autrement. Finalement, le succès du vinyle rappelle qu'une technologie ancienne n'est pas forcément condamnée à disparaître. Parfois, elle trouve simplement une nouvelle place dans un monde qui change.
Merci Sada, nous poursuivons ensuite avec votre chronique du moment consacrée aux aventures de Colin au rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens. Cette fois-ci, elle a rencontré l'auteur Jean Tétienne pour parler de sa bande dessinée La Nuit des Lanternes, parue il y a à peu près un an, ou plus d'un an, oui. L'auteur nous plonge dans un récit mêlant mystère, souvenirs et quête identitaire. L'histoire nous parle d'Eloane qui est confrontée à ses choix et à son passé lorsqu'elle retourne sur son île natale auprès de sa famille. Il nous parle des thématiques liées à la mémoire, la transmission et les liens humains. Au micro, Colin, Jean Tétienne revient sur la création de cette bande dessinée, son univers graphique et les inspirations qui ont nourri son travail.
De quoi ça parle La Nuit des Lanternes et d'où est venue cette histoire ?
Alors c'est l'histoire de Eloane, c'est une jeune femme qui retourne sur son île natale qu'elle a quittée il y a plusieurs années. Elle va y retrouver une mère hyper autoritaire et un petit frère mutique qui a arrêté de parler du coup depuis le décès du père. Et la spécificité de cette île, c'est qu'en fait, ils ont un folklore sur une entité qui est là, présente, ancestrale. Et cette héroïne va découvrir que ce folklore est plus réel qu'il n'est paraît. Et du coup, d'où ça vient, il y a deux points importants de ce là. Alors moi déjà, je suis fan de cinéma fantastique et horreur. J'aime beaucoup l'imagerie horrifique et l'imagerie fantastique. Et ensuite, c'était quand j'étais en vacances en Bretagne, à Carnac. Donc, qui en fait, c'est connu pour avoir des monolithes alignés sur des kilomètres. Et un matin, il y avait la brume qui restait encore accrochée en bas et tout. C'était avec le soleil, ça avait une ambiance très spécifique. Et j'ai commencé à avoir les idées de genre, ce serait trop bien une île avec parsemé de ce genre de monolithe là, peut-être gravé aussi, et j'imagine une bestiole qui marchait comme ça. Donc j'avais une très belle coquille graphique, on va dire, mais elle était extrêmement vide. Et quelques mois plus tard, du coup, j'ai appris que j'allais être papa. Et c'est là où ça a commencé à bouger les choses dans ma tête, de genre, ah oui, j'étais le fils de quelqu'un, maintenant je passe aussi père de quelqu'un. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à tirer plein de ficelles, de plein de rapports entre parents, enfants et tout et tout. Et du coup, ça a commencé à germer et c'est comme ça où j'ai, à force de réécriture, je suis arrivé en fait à La Nuit des Lanternes.
Et alors au niveau de ton style, tu utilises des couleurs qui sont assez chaudes. Et pourquoi ce choix pour quelque chose de fantasmagorique, de surnaturel ?
Ça permettait de trancher avec mon noir extrêmement prononcé. J'ai un style qu'on appelle un peu comics noir. Donc, parce que c'est mon style graphique qui est beaucoup influencé par le comics américain, d'auteurs comme Mac Mignola qui est créateur d'Hellboy, Sean Gunn Murphy qui fait beaucoup de choses aussi, dont Batman et tout. Et vu que fallait que je retranche tout ça avec des couleurs, du coup je me suis dit j'ai choisi en fait des choses qui me plaisaient à l'œil au final. Et vu qu'il y a un truc avec le feu, ça m'a été vraiment contrasté quelque chose qui était dans une nuit un peu violette. Vraiment du rouge bien pétant, ce genre de choses, je trouve que c'était très beau à l'œil.
Et si on revient un peu sur ton parcours, est-ce que tu as eu des hésitations au moment de te lancer ? Est-ce que tu as eu des doutes ?
Toujours. Les doutes, c'est tous les jours, encore maintenant. Même si au fond de moi, c'est genre, c'est trop bien, j'adore ce que je fais. Mais tu redoutes tout le temps, tu es en mode genre, bon, ok, est-ce que ce que je fais, c'est bien ? Est-ce que je peux pas l'améliorer ? Tout ça. Donc c'est bien parce que je bosse dans un atelier avec d'autres auteurs. Et du coup, c'est là où ils peuvent te guider aussi et te rassurer. Le doute, c'est normal, c'est chouette et c'est sain pour avancer. Mais des fois, laisse tomber, avance.
On est quand même dans une ville, donc tu es amiénois, et c'est une ville où la bande dessinée a beaucoup de place. Est-ce que tu t'es nourri aussi de ça, de ces auteurs et autrices amiénois, amiénoises ?
En fait, c'est que quand j'ai commencé à rentrer et à m'intéresser beaucoup plus aux études de BD que j'ai découvert beaucoup d'auteurs amiénois au final, pas avant. Et du coup, c'était super parce que oui, là, par contre, j'ai, par exemple, mon dossier éditorial, il a été fait grâce à Ludovic Rio, qui est un auteur chez Dargo, qui est amiénois aussi et qui a justement m'a aidé à calibrer un peu mon, à m'aider à faire ce dossier-là, quoi. Donc voilà, après, en termes d'affluence, j'en ai pas forcément, mais ils m'ont beaucoup aidé dans ma recherche, on va dire ce qu'on appelle mon voyage artistique. Ils m'ont grave guidé là-dedans.
Alors on sait que la bande dessinée, c'est un univers qui est assez compliqué, je veux dire, en vivre, c'est compliqué. Toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à en faire ton métier ?
Oui, j'en vis, parce qu'en fait, en gros, je vis donc de la BD, mais de différentes formes. La première, c'est d'abord, je transmets la bande dessinée, donc je vais dans des, je fais des interventions dans les écoles, dans des collèges, dans des lycées, pour différents projets, ou même juste présenter le boulot d'auteur. Je suis aussi vacataire là où j'ai été étudiant. Voilà, quelques années après, je suis retourné en étant professionnel vacataire là-dedans pour aller aider à mon tour du coup les étudiants dans des domaines où j'avais un peu plus de bagages et tout ça. Et ensuite, de la création de la bande dessinée. Mais c'est un peu compliqué quand même.
C'est vrai, pas facile.
La Nuit des Lanternes, donc ça a été ta première bande dessinée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive là ? Est-ce que tu es en train de travailler sur un nouveau projet ?
Là, je vais me reposer beaucoup parce qu'en fait, je me suis un peu... c'est moi qui fais tout, du début jusqu'à la fin, donc de l'écriture jusqu'à la couleur en passant par le dessin. C'était une forte pagination et du coup là, j'ai commencé un nouveau dossier. C'est infusé un petit peu chez les éditeurs et je me dis voilà, je vais me recentrer sur moi. Et on va repartir sur de bonnes bases pour réécrire à nouveau.
Eh ben, merci beaucoup Jean-Étienne. Est-ce qu'on peut te suivre quelque part pour découvrir ton travail, La Nuit des Lanternes ?
Tout à fait, vous pouvez me suivre sur Instagram. Mon compte, ça doit être Jean-Étienne-Art, je crois.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci Colline pour cette chronique consacrée au rendez-vous de la bande dessinée. À l'occasion des 125 ans de la loi 1901 sur les associations, pendant tout le mois de juin, la Confédération nationale des radios associatives lance la campagne La France qui se bat. 15 chroniques dressant le portrait d'associations ont été produites par la radio associative de toute la France. Nous diffuserons 3 épisodes par semaine, du mercredi au vendredi, après l'Info Club Sandwich jusqu'au 1er juillet. Aujourd'hui, nous écoutons un reportage réalisé par Rage Nîmes, consacré à l'élan sportif de boxe nîmois.
Depuis 125 ans, les associations font battre le cœur de la France. Avec La France qui se bat, partez à la rencontre de celles et ceux qui s'engagent partout sur le territoire.
Des cours de sport ouverts à tous les âges et à tous les niveaux, une dimension sportive qui déborde sur des ateliers autour de thématiques qui réunissent enfants, parents et spécialistes, tel est le pari de l'ESBN, l'élan sportif de boxe nîmois, association de sport et bien-être pour tous implantés à Nîmes depuis une dizaine d'années déjà. J'ai le plaisir d'accueillir Youssef, membre de l'ESBN. Donc au-delà des locaux situés à proximité du collège Les Oliviers, l'association se déplace dans des centres sociaux de la ville pour faciliter l'accès au sport dans les quartiers populaires. Et avant d'évoquer l'ESBN, vous présentez d'abord en racontant un peu votre parcours, votre trajectoire qui vous a amené à cette association.
Alors oui, bonjour, moi c'est donc Youssef, j'ai 36 ans et je suis donc animateur, coordinateur au sein de l'ESBN, donc l'élan sportif de boxe nîmois, depuis quelques années maintenant. Donc l'association, elle a été donc créée en 2014, donc la fondatrice c'est Marine. Et moi j'ai rejoint l'aventure donc en 2018 et donc voilà, moi mon parcours voilà, j'ai toujours aimé le sport depuis le jeune âge. Aujourd'hui voilà, j'anime des cours et je m'épanouis dans cette mission.
D'accord, c'est un peu la suite logique finalement de votre parcours. Et est-ce que vous pouvez évoquer les spécificités de l'association, parce que on peut y retrouver si on adhère la boxe évidemment, mais pas que. Donc voilà, est-ce que vous pouvez présenter les différentes activités et ce qui fait que vous avez accepté de rejoindre cette aventure?
Tout à fait. Moi, ce qui me plaît en fait, l'association dans laquelle j'interviens aujourd'hui, c'est le fait qu'on propose du sport pour tout type de public. Donc ça, c'est vraiment dès l'âge de 3 ans. Donc pour nous, c'est important d'initier dès le plus jeune âge les enfants à la motricité. l'équilibre, la force, etc. dès le jeune âge, bien sûr avec avec une pédagogie basée sur du jeu, hein, pour rester ludique, pour capter les enfants. Et donc on a un public aussi enfant d'une catégorie d'âge de 6-9 ans, une catégorie d'âge des 10-14 ans, et puis ensuite on a une catégorie d'âge ado-adulte, et des adultes 100% féminins. Et on propose donc de la boxe pied-point, donc tout ce qui est kickboxing, K1 et boxe thaï. Éducatif, je le précise, parce qu'on ne pratique pas du plein contact. En tout cas, nous, on n'adhère pas avec cette vision de la boxe plein contact. C'est vraiment voilà, de à la touche où les gestes sont maîtrisés. Nos cours, par exemple, qu'on inculque même dès le jeune âge, on démarre toujours un cours avec un salut collectif, on finit avec un salut collectif. Au sein des séances, on essaye en tout cas d'encourager que les boxeurs ou les boxeuses, tout le monde tourne avec tout le monde sur l'aspect technique. Les garçons ne boxent pas qu'avec les garçons, les filles ne boxent pas qu'avec les filles. On tourne, les meilleurs boxent avec, entre guillemets, les débutants. Mmh. Les débutants boxent aussi avec les confirmés. Parce que, voilà, c'est la famille ESPN, ouais. Et on essaye vraiment on est vraiment attachés à ça. On accueille donc des enfants dès l'âge de 3 ans jusqu'à 77 ans où on a mis en place, c'est récent, ça fait à peu près une année, on a mis en place des cours seniors.
D'accord.
Voilà, donc pour les 60 ans et plus, et du coup c'est gratuit pour les seniors, où ils viennent donc se retrouver. Donc il y a aussi l'aspect social où ils se retrouvent, où ils peuvent échanger, discuter, donc deux fois par semaine.
Vous travaillez aussi donc à l'échelle de la ville avec les centres sociaux. Pourquoi ce choix, cette implantation locale là et cet étalement sur toute la ville, et quels sont vos objectifs derrière ça?
Alors la volonté, c'était vraiment de rendre accessible la pratique sportive pour tous. On est à l'extérieur du quartier, donc sur le périphérique, mais on est aussi à proximité, à 5-10 minutes à pied des différents quartiers, Masseville, Clodorville, Route de Beaucaire et les Oliviers. Et donc voilà, c'est faciliter l'accessibilité pour ces habitants-là, de sortir de leur quartier et de venir à la salle.
Le sport comme rôle social et d'insertion, tel est le pari gagnant de l'ESBN qu'on a vu à travers ce témoignage.
La France qui se bat, une série au cœur des associations. Pour découvrir la campagne et vous engager, rendez-vous sur www.lafrancequi-se-bat.fr.
C'est déjà la fin de votre Info Club Sandwich. Merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte sur une musique avec Nos Limites de KLN et Tiakola. Merci pour votre écoute et rendez-vous demain sur Radio Campus Amiens. Très belle journée à vous tous.
Allez, santé, allez, beaucoup du goût, du boulot, y'en a beaucoup du goût. Au point, j'en ai plus pour fermer les bouches. Oulala, moulala, j'en veux beaucoup du goût. Pour faire rentrer, pour rester debout. Quand on a vide, à ma vie des goûts. Oulala, j'en ai beaucoup du goût. Oulala, pour les bouches, j'en ai beaucoup du goût.
Je viens faire le beau jeu comme brésilien. Blanc masqué comme cartel mexicain. Que du taf, rien de magique, j'ai pas coulé. Comme Martin devant l'américain. Le soir, je m'endors des rêves plein la tête. Bitch, tu peux, je me bats pour y accéder. T'es d'amour dans mes shows pour me booster. Fatigué, je continuerai même fatigué. Hey. Et tu sais ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime. Grandi dans street, donc tu lis la notice. Un peu de joie quand tu vas sur la piste. Qu'on a fait ce qu'on a fait grâce à la vie d'artiste. Mais dans le mal, voilà ce qui m'analyse. Je vois beaucoup mieux la Matrix. Niquer des mecs dans les vis, niquer des mecs dans les vis. Chérie, laisse ça. J'ai plus tant de jours et à soir. Dans ma vie, des love, des love, des love. J'ai reçu, j'ai vu, c'était que de passage. Je vois qu'un côté dans le succès. Lumière éteinte, plus d'artiste.
C'est noir.
Ce tracas est fait hier pour me vider la tête. De l'ambiance en soirée dans nos week-ends. Que j'ai la bien caillé dans nos dégaines. Et cet âge, je veux de l'oxygène. Ils savent qu'on est besoin quand on dégaine. Sur le corner numéro 7. Sur le maillot, t'es ma comment je dégaine. La mienne ne peut être que pérenne quand on grandit avec tous les sébènes. Hey, hey. Allez, beaucoup du goût. Du boulot, y'en a beaucoup du goût. Beaucoup, j'en ai plus, faut fermer les bouches. Oulala, moulala, j'en veux beaucoup du goût. Pour faire rentrer, faut rester debout. Comme toi, la vie d'un mamie des tout. Oulala, je veux les beaucoup du goût. Oulala, poussez-vous, je veux les beaucoup du goût. Hey, hey.
Champillas de billets tous les jours. J'essaie, c'est trop pillé tous les jours. Quand je n'ai pas là, forcément les souris dansent.
J'accumule les récompenses, je suis en plein dans ma vocation. Je suis en plein dans ma vocation. Baby voudrait des vacations. Quelqu'un, oh la la. La Marcel avec ses cations. Si tu connais le G.O.A.T, tu sais qu'il est dans sa fast life. Trop stylé, aucun fashion, faut pas. Elle me dit qu'autour de moi y'a trop de wine. La même mentale que Franklin. Nos limites, nos limites, nos limites. Ops, what a ego, j'élimine. J'élimine, j'élimine, j'élimine.
La même mentale que Franklin. J'élimine, j'élimine, j'élimine. Nos limites, nos limites, nos limites. Ops, what a ego,
j'élimine. Que je l'obé qu'il y a dans nos dégaines. Elle s'attache, elle veut d'oxygène. Ils savent qu'on est gros son quand on dégaine. Sur le cornet, je suis en Seven. Sur le maillot, témoin comment je les gêne. L'avenir ne peut qu'être pérenne. Quand on grandit avec tous les sébènes. Mango, allez au bout du coup. Du boulot, y'en a beaucoup du coup. Repos, j'en ai plus, faut fermer des bouches. Le lop, beaucoup, beaucoup. Pour faire rentrer, faut rester debout. Quand on la vie, t'as mis des coups. Allez, allez, beaucoup du coup. Du boulot, y'en a beaucoup du coup.